Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme à mon habitude, je suis accompagné de Yann.
Hello, hello.
Nouvel épisode, nouvel invité et on a quelqu'un de spécial car on reçoit la personne qui m'a introduite aux jeux vidéo, la personne qui détient actuellement ma Switch, mon aîné, mon grand frère, c'est Kenny. Comment ça va, bro ?
Bonsoir, salut, ça va bien et toi ?
Oui, ça va tranquillement. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en deux mots ?
Alors, je m'appelle Kenny, j'ai 32 ans, donc je suis un peu plus vieux que Chris, vu que je suis son grand frère, c'est jusque-là assez logique. Et voilà, je suis le grand frère de Chris et ça me semble bien comme description.
C'est pas mal. Bah, sans plus attendre, attaquons chronologiquement le top des jeux qui t'ont le plus marqué. Le premier que tu m'as soumis, là on va partir en 1996, c'est Super Mario 64. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Bah, je pense que du coup toi tu connais l'histoire vu que c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, mais je vais la raconter parce qu'elle a partagé aussi avec Yann. Bah, Super Mario 64, c'est un jeu qui nous a quand même bien marqué. On l'avait eu, on l'a récupéré, on l'a eu en cadeau en fait à Noël. Je pense que c'était Noël 96 ou 97. Et on l'a eu en même temps que la Nintendo 64. Donc c'était une bonne surprise. Moi, je devais avoir, si c'était 97, j'avais 9 ans. Donc c'était un peu la grande révolution, puisqu'on passait de la Nintendo classique, la NES, qu'on avait jusque-là et qui était bien, mais un peu vieillissante. Et on est passé à la Nintendo 64 avec la 3D, avec tout le joystick, la nouvelle manette. Et je me rappelle, c'était assez spécial parce que on n'avait pas à l'époque la bonne télé, puisque quand la Nintendo 64 est sortie, il y avait une prise Péritel, je crois, ou je sais pas quoi, qui reliait la console au téléviseur, et le téléviseur qu'on avait à l'époque était, je crois, un peu trop vieux et, ou en tout cas pas assez moderne pour avoir pour pouvoir être relié à la console. Et donc on a d'abord les premières semaines ou les premiers mois, je crois, dû jouer chez notre oncle qui habitait pas hyper loin, mais du coup voilà, ça rajoutait un petit peu quelque chose de spécial à cette console, puisque c'était en fait une occasion un peu particulière, quoi. On jouait à la Nintendo 64 quand on allait chez Tonton Lambert et qu'on pouvait avoir la télé qui allait bien avec. Et voilà, donc c'était pas mal. Et puis, bah, pour revenir au jeu, Mario 64, c'est, je pense, un jeu qui a marqué beaucoup de gens quand ils l'ont eu, parce que c'était le premier jeu de 3D qui posait un peu les bases de ce qu'allaient être les jeux 3D. Après, donc avec espèce de sensation de liberté comme ça, pas descriptible. T'arrives comme ça, tu sors de ce tuyau devant le château et on a dû passer des heures à grimper dans chacun des arbres qui sont dans cette zone-là, parce que il y avait tellement de trucs à découvrir, à explorer, juste à voir en fait dans un jeu comme ça où t'avais pas l'habitude de pas aller de A à Z. Et où tu pouvais juste, bah voilà, si tu voulais nager pendant des heures, tu nages pendant des heures. Si tu voulais grimper sur les arbres et faire des saltos, tu faisais ça. Si tu voulais, je sais pas, courir derrière les oiseaux, les papillons, enfin, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Et c'est ça qui était assez marquant, en fait, pour un jeu de l'époque.
C'est fou que tu t'en souviennes aussi bien. Là, juste pour revenir sur l'anecdote, là, Tonton Lambert, etc. Moi, je me souviens vraiment d'obtenir la console à Noël. Et il y a un genre de clip qui tourne sur YouTube, un petit qui est hyper excité d'avoir la Nintendo 64. Je me vois quasiment comme ce petit-là, en mode tout fou. Je me souviens du moment où on l'a eu à Noël, mais je savais pas qu'on n'avait pas la télé qui fonctionnait au départ avec.
Ah non, si. On n'avait pas une télé si vieille que ça, mais c'est juste que je pense que ça devait être comme aujourd'hui quand tu passes du HDMI à la prise qu'il y avait avant. En fait, c'est juste, bah, il y a eu un changement de connecteur comme ça. Et...
Ouais.
Et du coup, bah, les premières, on a changé de télé après, mais le premier moment, c'était bon, bah, désolé, la télé marche pas. Du coup, on allait chez notre oncle pour pouvoir jouer. Je te laisse pas imaginer la frustration des enfants qui, genre, découvrent la Nintendo 64 le matin de Noël et peuvent pas y jouer parce que la télé marche pas. Enfin, c'est ascenseur émotionnel.
C'est fou en fait, parce que la Nintendo 64, moi, c'est ma première console, c'est même ma première introduction à n'importe quel jeu vidéo. Mon oncle, en fait, mon oncle du Canada, est arrivé avec à la maison pour aucune occasion. En fait, c'est juste qu'on le voyait pas souvent et il a dit, il y a trois garçons dans une maison, je vais leur offrir la Nintendo 64. C'est normal qu'ils aient la meilleure console du moment. Il était arrivé avec Mario 64 et Diddy Kong Racing. Et ce jour-là, je pense que ma mère a compris qu'elle nous avait perdus, quoi. Elle en a voulu à mon oncle pendant si longtemps là, en fait, tu les as introduits à mon plus grand cauchemar, quoi. C'était
le shift.
Ah non, vraiment. Mario 64, c'est tous les trois on tournait, on se donnait la manette, on essayait de faire les niveaux ensemble. Mmh. Ça prenait un temps fou.
Non, mais c'est. Enfin, en fait, Chris, tu disais que je me rappelle bien là. C'est aussi parce que là, je l'ai racheté. Enfin, du coup, il est ressorti sur Switch pour l'anniversaire de Mario.
Ouais.
Et c'est pas juste des souvenirs de 97 là que j'ai encore en tête. C'est aussi que j'ai revécu. J'ai eu l'occasion de revivre un peu tout ça en y rejoignant récemment. Mais ouais, nous aussi on faisait des mondes ensemble et à plusieurs. C'est un jeu que tu à l'origine c'est un jeu pour une personne, enfin un jeu auquel tu joues en solo. Mais c'était tellement révolutionnaire à l'époque que en fait c'était juste aussi agréable de c'était un plaisir de regarder les autres jouer. Tu donnes des conseils, tu dis essaye d'aller par là, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Enfin tu vois c'était comme regarder un dessin animé ou un film. Ouais.
Et en plus j'allais en venir à ton anecdote, c'est que moi aussi j'ai acheté le remake. Et ma mission, je me suis dit, mais moi, j'ai passé tellement d'heures dessus que je vais faire jouer ma copine à Mario. Elle a jamais joué à un jeu vidéo. Je me suis dit, j'ai commencé par Mario. Ouais. Elle va commencer par Mario. En fait, elle a détesté sa vie pendant une heure. C'était la pire expérience de sa vie. Elle m'a dit, c'est trop dur. Elle voulait battre le roi Bob-omb, tu sais, qui est le premier truc. Tu vois, tu démarres, en fait, t'as directement un boss. C'est hyper compliqué, en fait. Et elle n'y arrivait pas, en fait. Elle faisait que tomber de la plateforme. Et dès que tu tombes, tu recommences le boss.
Ouais.
Et en fait, elle arrêtait pas et elle était là. Ouais, elle disait, mais j'y arrive pas. Puis en plus, et alors après, j'ai testé Sunshine. Donc moi, Sunshine aussi, j'ai des super souvenirs. Et en fait, Mario, il glisse. Je sais pas comment expliquer ça, mais en rejouant, je me suis rendu compte que Mario, il glisse.
Okay.
Genre, le mouvement, il s'arrête pas net quand tu t'arrêtes. Il y a un petit moment où il glisse un peu plus, tu vois.
Ça c'est ton stick de Switch là qui c'est le joystick.
Ah non. Sunshine ça glisse et genre je me suis dit mais en fait c'est le jeu est horrible à jouer. Vraiment je l'ai trouvé horrible à jouer. Mais c'est vrai que sûrement avec j'avais d'autres a priori à l'époque. Moi Sunshine je l'ai toujours mis comme un de mes jeux préférés et puis Mario 64 c'était un peu la même chose. Donc non c'est un choix, je pense que c'est un choix classique, on va dire. C'est un choix qu'on va retrouver, je pense, mais qui est compréhensible parce que c'est un super jeu. Mario 64, c'est un super jeu.
Non, c'est clair. Et en fait, c'est aussi hyper, il était aussi hyper intuitif parce que quand tu y repenses aussi, à l'époque, tu n'avais pas du tout l'habitude. Enfin, nous, c'était une révolution d'avoir cette manette avec les trois poignées comme ça, avec le joystick au milieu. Enfin, je te dis, on est passé de la Nintendo classique de la NES à 64.
Une manette toute plate, rectangulaire. Là.
Voilà. Donc, c'était aussi la révolution. Et pourtant, enfin, bon, je dis là, c'est peut-être avec le recul que j'enjolive un peu des souvenirs, mais j'avais là quand même l'impression qu'on s'est vite approprié. Enfin, c'était les premiers niveaux sont, t'apprends, tu vois un peu vite, comment tu sautes, comment le jeu est bien fait en fait pour te montrer un peu tout ce que Mario peut faire et t'habituer aux différents mouvements, et la difficulté va un peu crescendo quoi. Et t'as aussi des niveaux qui sont vraiment vraiment difficiles, des niveaux de plateforme qui sont vraiment chauds, mais c'est ce qui est agréable, c'est voilà de juste comme je disais tout à l'heure, cette histoire du jardin là, tu te balades juste dans le jardin, t'apprends à sauter, t'apprends à nager, t'apprends à grimper dans les arbres, t'apprends à faire un peu tous les trucs, à parler, à lire les panneaux, c'est un peu tous les gimmicks qui reviendront après dans le jeu.
Totalement. Peut-être un des petits points noirs et une des choses qui a que t'as beau l'apprendre, t'as quand même du mal tout au long du jeu, c'est la caméra, la gestion de la caméra.
Ah, ça, c'est clair.
Parce que pour la première fois, comme tu le dis, on passe dans un environnement 3D. Donc, c'est le premier Mario 3D de la série. Et du coup, t'as plus juste à te déplacer de gauche à droite en 2D et à sauter sur les blocs. Là, c'est vraiment, OK, comment j'avance? Comment je regarde où je vais aller? Comment tout ça, quoi? Comment je fais en sorte que le monstre qui arrive, j'arrive à l'éviter? Comment je tombe bien sur la plateforme, etc. Enfin, la gestion de la caméra est quand même assez problématique parfois.
Donc, je suis entièrement d'accord avec toi.
Le pauvre Latikou qui en prend pour son grade. il tient sa petite caméra et là, il y a Chris qui vient de lui mettre une gifle. Tu vois. Et toi, par contre, t'es nul.
Mais même lui, il arrive, t'es dans le jardin, et il arrive et il t'explique comment ça va marcher. Genre, oui, bah, je suis reporter, je te montre comment ça va marcher. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est clair que la gestion de la caméra, c'est un peu compliqué. Et enfin, même là, en le revoyant, en y rejouant... récemment, il y a plein de moments où moi-même je me disais mais c'est pas possible, la caméra normalement tu peux tourner un peu plus, là c'est tous les points de vue sont pourris. Mais en même temps, bon, je te dis le jeu est tellement bien que c'est un petit défaut un petit point noir que tu lui pardonnes.
D'ailleurs, c'est marrant qu'il soit là dedans en fait dans le jeu, parce que c'est limite précurseur en fait, il se retrouve dans le HUD, genre il se retrouve dans le jeu. Et ça justifie le pourquoi on voit Mario à la troisième personne.
C'est vrai.
C'est-à-dire que c'est parce qu'il est en train d'être filmé, quoi. On est en train de vivre son petit film dans le château.
J'avoue, scénaristiquement parlant, c'était bien pensé, ça a bien amené.
Ouais. Et tu vois, dans mon day-to-day, dans le job que j'ai en ce moment, on parle beaucoup d'onboarding à chaque fois. C'est-à-dire que tout ce qui est tutoriel et première mission pour apprendre aux joueurs à jouer. Et en fait, en y rejouant, j'ai remarqué, comme tu as dit, c'est des pancartes qui te donnent des informations, sauf que en étant enfant, je n'avais jamais lu une pancarte.
Ah bon?
Donc, en fait, ce qui prouve quand même que... Ah, moi, je ne lisais jamais les pancartes. Ce qui prouve quand même que le jeu est hyper intuitif, ouais, parce que tu arrives à faire des choses. Je pense au chomp, tu vois, dans le premier monde.
Ouais.
Ta chomp que tu dois libérer, et puis il te donne une étoile. Bah, tu sais, c'est hyper intuitif de juste... tu as un pylône en bois, puis tu vas juste taper dessus avec tes fesses trois fois, au bout de la troisième fois, il s'échappe, puis toi, tu as ton étoile. Non, c'est des mécaniques, c'est les premières mécaniques Mario... 3D, et finalement c'était hyper intuitif, c'était hyper facile de se mettre dedans et de comprendre comment faire. Même ma copine elle y est arrivée, même si elle a détesté cette partie là en tout cas elle l'a compris assez facilement, même si elle en tant qu'adulte elle a lu les panneaux. Mais bon, ça après
c'est marrant que tu racontes ça, parce que moi j'ai la même expérience aussi avec mon copain ici, où pareil j'ai acheté Mario 64, je m'étais aussi dit ah bah vas-y ce sera cool, en plus c'est le confinement cette année donc on pourra y jouer ensemble, etc. Lui, il n'a pas détesté, mais pareil, il n'avait pas plus d'expérience avec les jeux vidéo que ça d'avant. Mais donc, il lit beaucoup plus les panneaux. Enfin, il a ce réflexe d'adulte d'explorer, mais pas juste explorer en mode fun. C'est aussi tu lis, tu contrôles, c'est voilà. Et par contre, il arrive aussi à il a aussi réussi à comprendre un peu rapidement les logiques du jeu, et ce qui était drôle aussi, c'est que Mario 64, c'est quand même un jeu où t'as pas de linéarité, tu sais, tu peux très bien, au début un petit peu, mais au bout d'un moment, dès que t'as suffisamment d'étoiles, tu peux faire un petit peu là, et puis un petit peu là, et puis changer de monde et faire le jeu et le finir comme un peu à ta guise. Et
ouais, t'as juste des checkpoints, on va dire, avec
voilà,
les boss.
Ouais. Alors que là, c'était un peu plus, bon, du coup, je fais toutes ces étoiles de tel niveau parce que, c'est dans cet ordre-là. Alors qu'en fait, non, tu peux aussi. Tu peux être beaucoup plus libre, quoi.
Voilà. En tant qu'enfant, tu te cassais la tête généralement sur une, puis au bout d'un moment, t'en avais marre et t'allais voir un autre monde, quoi.
Non, c'est clair.
Mais tu te cassais la tête sur celle-là, tu disais, je vais y arriver. Ça me fait penser à celle où je me rappelle j'avais fait ça. Est-ce que vous voyez celle où on est dans un monde où quand on démarre il y a un champ de fleurs et un arbre?
Ah oui,
c'est là,
là
où il y a
le womp, ça.
Et en fait, ouais, là où il y a le womp, et puis il y a une étoile, elle est juste en l'air dans une cage.
Oui.
Il faut avec un canon se mettre dedans, mais en fait t'essayes, puis la majorité du temps tu tombes et tu meurs. Et donc celle-là, au bout d'un moment, moi j'avais essayé, puis j'étais genre non, je vais revenir dans un autre monde, là j'en ai marre. Je me rappelle avoir essayé un nombre de fois incalculable, puis j'arrivais juste pas à bien viser.
Ouais.
Je suis pas sûr que c'était la technique d'ailleurs. Il me semble qu'en fait, tu devais prendre, genre, monter tout en haut, puis prendre la casquette ailée, et puis atterrir tranquillement dans le truc. Donc moi, j'étais juste, moi, je jouais au bowling, tu vois, genre, j'étais là, j'essayais juste de viser le petit truc avec mon canon.
Encore fallait-il comprendre que tu pouvais utiliser la casquette ailée, tu vois.
Il y a une question que je me suis posée en y rejoignant aussi, c'est comment on faisait sans internet, parce que typiquement des étoiles comme ça où en fait tu devais réessayer et trouver toi-même un truc. Moi là, il y a plein de trucs, il y a plein d'étoiles dont je me rappelle en fait où bah comment c'était, parce que j'ai fini le jeu il y a 15 ans là, mais oui, même il y a 20 ans. Et maintenant, il y en a certaines où bah, t'essayes un truc, t'essayes encore, et puis bon, bah, c'est facile d'aller voir vite fait. Tu tapes le nom d'étoile, t'as directement un lien avec une vidéo YouTube qui te montre
wow.
Le tutoriel. Et du coup,
non, la vidéo YouTube elle est parfaite en plus.
Exactement. Et du coup, c'est clairement un peu de la triche, mais c'est intéressant de voir, je trouve, le changement par rapport à avant, où je pense que bah, t'avais peut-être des solutions dans les magazines ou dans des trucs que tu pouvais acheter, quoi. Mais je pense qu'on était beaucoup plus créatifs et beaucoup plus genre badass, beaucoup plus à insister sur des trucs, alors que...
C'est sans doute pour ça qu'on trouve que les jeux de l'époque sont plus durs,
ouais.
Aussi.
T'étais seul face à toi-même.
Ouais, moi j'ai une nostalgie des jeux d'avant, où à chaque fois je me dis, tu vois, Mario Galaxy, quand j'y ai joué, je me suis dit, oh, le jeu est trop facile. Et c'est parce que dans ma tête, je repensais à Sunshine et Mario 64 où il n'y avait pas d'aide et où tu galérais comme... Enfin, alors que c'est Mario Galaxy est finalement juste mieux fait. Tu comprends très vite ce que tu dois faire.
Ouais. J'ai eu un exemple de ça un peu là. J'ai joué hier là, juste... c'était pas du tout pour préparer le podcast, mais juste parce que du coup là, comme on est en reconfinement et qu'on a moins de choses à faire, c'est pratique d'avoir une console pour s'occuper. Et là, j'étais dans le monde, c'est un monde qui est un peu vers la fin, c'est où t'as des champignons, c'est une montagne encore, et t'as plein de champignons rouges et blancs, là. Et c'est là où il y a le petit singe, là, à un moment, qui vient de piquer ta casquette.
Ouais.
Et dans ce monde-là, il y a la dernière étoile, c'était, t'as un champignon qui est tout seul dans l'air, et il y a une étoile dessus. Et, je sais pas comment il y a, tu vois qu'il y a un chemin en dessous qui mène à un canon, mais comment arriver sur ce chemin, quoi? Et donc j'ai essayé plein de j'étais genre t'as 4 vies au début, donc j'ai essayé de sauter de la falaise, etc. Ça marchait pas, j'ai essayé de enfin plusieurs méthodes, et au bout d'un moment quand j'ai eu game over une fois, j'ai fait bon bah vas-y, je vais regarder vite fait sur internet, faut aller sur un autre petit champignon qui est un peu plus loin et où t'as un passage secret qui te fait genre qui fait disparaître Mario et qui te téléporte sur la plateforme du dessous. Et ça, enfin, à l'époque, je pense qu'on aurait trouvé, juste parce que bah, tu t'explores, tu regardes, tu testes un peu tout. Là, j'étais beaucoup moins patient et c'était...
Ouais. La téléportation, ça fait penser au petit pingouin, tu sais, que tu devais ramener à sa mère.
Ah oui.
Le monde, ça c'était trop drôle parce que tu avais deux pingouins, puis t'en as un qui était faux. Et à chaque fois, moi, j'attrapais le faux et je le lançais. Lui, je le tuais, tu vois. Et après, j'arrivais avec le vrai et là ça se passait bien.
Et juste pour info, là, vu que tu es en train de le refaire avec le Super Mario 3D All-Stars, tu es à combien d'étoiles?
Alors, hier, j'étais à 98.
Il en reste 22.
Ouais. Je ne sais même pas si on avait eu les 120 étoiles à l'époque, hein, parce que je sais qu'on avait fini. En fait, je pense qu'on a dû les avoir, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il me semble que tu peux avoir accès au toit du château quand tu as les 120 étoiles. Et je me rappelle qu'on y était allé. Mais en même temps, j'ai pas le souvenir d'avoir eu 120 étoiles, donc c'est peut-être qu'on a craqué quelque chose, ou je sais pas.
Et en termes de deuxième jeu, du coup, c'était quoi ton choix?
C'était SimCity. SimCity 3000 sur PC.
Jeu de construction, simulation, où tu gères ta ville, City Builder, quoi.
Ouais, c'est ça. Et
comment tu l'as découvert, ça, d'ailleurs? Parce que je pense que parmi toutes les personnes que je connais, t'es la seule à avoir joué à ce jeu, sans mentir.
Ah bon?
Avec Yann.
moi, j'ai joué avec mon grand frère, mais c'est parce qu'il y avait des packs avec genre 10 jeux, et il faisait partie des 10 jeux. Des packs Fnac, Carrefour, hein, dont on a parlé.
Ouais.
Il était juste dedans, mais ouais, c'est vrai que...
Bah écoute, non, c'est une bonne question, je suis en train de réfléchir, je sais pas comment j'ai commencé à jouer à SimCity, mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça... ça a un peu changé beaucoup de choses après, parce que, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme deuxième jeu dans ma liste, parce que ouais. En fait c'est un des premiers jeux comme ça de gestion je pense auquel j'ai joué quand j'étais petit, et en fait j'adorais ce genre de jeu, et c'était le premier et pas du tout le dernier.
C'est une niche. T'as quoi d'autre en tête là?
Bah, j'ai commencé par SimCity, puis après du coup j'ai aussi joué aux Sims. C'est peut-être comme ça en fait que j'ai connu, ou c'est peut-être dans d'autres sens d'ailleurs. Je pense commencer par les Sims, et ensuite je suis arrivé à SimCity. Mais SimCity me plaisait beaucoup plus parce que ça me plaisait, enfin je trouvais ça plus intéressant de construire une ville que de construire que juste une maison, et de faire enfin d'avoir ce côté un peu une maison de poupée là avec que t'as avec les Sims.
L'aspect macro t'inspire plus.
Ouais, et d'ailleurs en fait à la fin dans les Sims je préférais construire plutôt des maisons, et même des fois sur le terrain d'une maison je construisais genre deux ou trois petites maisons pour faire un peu comme une mini allée ou un truc un peu résidentiel, alors que
ça, je me souviens, ça,
enfin comme si c'était vraiment un quelque chose de, ouais, comme si un SimCity quoi, c'est ce côté de gestion urbaine, alors que les Sims c'était moins ça. Et donc pour revenir à ta question, je pense aussi sinon à Theme Hospital, Roller Coaster Tycoon.
Ouais.
Y a plein de jeux de gestion comme ça dans le genre auxquels je jouais aussi, et qui, où bah, en fait t'as pas vraiment de début et de fin, ou de but. Enfin, le but c'est juste de continuer à gérer, etc. Et en fait c'est assez, ouais, assez plaisant.
Est-ce que t'as déjà joué à Anno?
Non.
Parce qu'apparemment, ça ressemble un peu à ça.
Non, mais en fait, mais je crois que j'aimais pas non plus trop les... Parce que Anno, c'est un peu style médiéval, et non?
Ouais, mais il y en a un futuristique. Ouais. La plupart, ouais, sont plus renaissance. En
fait. Parce que ça, j'aimais pas trop ce style-là. Et peut-être que, enfin, en tout cas, à l'époque, maintenant, ça a peut-être un peu changé. Mais ouais.
Et après Civilization, les jeux un peu comme ça aussi, ou ça t'intéresse?
Non, ouais, pareil, le style un peu médiéval, historique, là, me plaisait pas trop.
C'est plus la gestion en fait pure et
dure. Ouais, la gestion, et puis le côté, enfin, dans SimCity, tu pouvais un peu soit faire le but c'est quand même de faire une ville au final très américaine, parce que c'est quand tes quartiers réussissent, t'as des tours, et enfin c'est l'objectif, c'est seulement la densité. Et donc à la fin, quand ta map est un peu successful, t'as une espèce de truc qui ressemble un peu à New York, quoi. Alors que après, dans les différentes versions du jeu qui ont suivi, donc SimCity 4, et maintenant il y a City Skyline qui est un peu le successeur, et auquel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps pendant le premier confinement.
Compétiteur d'ailleurs, c'est pas du tout Maxis qui fait celui-ci, si je me trompe pas.
Ouais, c'est un autre, ouais, c'est beaucoup mieux. Enfin, ça a vraiment pris la succession et la digne suite de SimCity. Mais dans ces différents jeux-là, après, t'avais aussi un peu plus de diversité, donc tu pouvais aussi avoir des villes qui étaient plus différentes, enfin un peu plus diverses, avec des trucs un peu plus ruraux, un peu plus avec des zones moins denses, et c'était assez chouette, enfin c'est plutôt bien fait.
Est-ce que ce jeu-là t'a amené à faire, je sais pas, dans la vie réelle, t'inspirer ou t'instruire, être plus curieux sur des choses autour de l'urbanisme, des choses comme ça?
Ouais, bah c'est... À un moment, en fait, je m'étais dit que je voulais devenir urbaniste. Enfin, je pensais que c'était un peu un des métiers qui me disait quand il était question des études supérieures, etc. Donc après, bah, j'ai un peu orienté mes études là-dedans. Puis finalement, j'ai changé d'avis au moment du master. Mais ouais, c'est clair que c'était aussi un truc qui, enfin, ça correspondait à mes goûts, quoi. Je pense qu'il y avait, je sais pas si c'est SimCity qui a entraîné ça, ou si c'est juste que mes goûts étaient là et que c'était des domaines qui m'intéressaient, et qu'en fait, du coup, bah, SimCity, c'était le jeu parfait pour qui correspondait à ces envies-là. Mais en tout cas, c'est clair que bah là, du coup, maintenant, donc je fais autre chose. J'ai finalement pas mené une carrière d'urbaniste, mais je me dis que bah, quand je joue à ces genres de jeux, c'est un petit moyen de revenir vers ça et de garder un peu cette petite flamme allumée quelque part, quoi.
Yann, tu disais que toi aussi, tu y avais joué un petit peu à SimCity ?
Ouais, moi, j'y jouais beaucoup. C'est surtout mon grand frère qui y joue aussi.
Ok.
Je me demande même s'il n'a pas joué il n'y a pas si longtemps. Il adorait ce genre de jeu-là. Mais lui, du coup, derrière, il a bifurqué sur des Total War, Civilization, tous ces jeux-là. Ouais, même là, il m'a redemandé mon compte Steam pour pouvoir jouer en ligne à Total War. Donc, je pense que, bon, c'est des passions de confinement un peu, mais c'est des jeux de gestion. Moi, je suis plutôt passé sur des jeux de gestion sportive parce que le sport, ça m'a toujours passionné. Donc, je suis plutôt passé sur des Pro Cycling Manager, Football Manager, tout ça. Ouais. Là. Ou pareil, ouais, ça a pas de limite de temps. Le but, c'est de gagner. Tu te mets en fait tes propres objectifs. C'est des jeux de management, de stratégie et management, mais où c'est des sandbox, quoi. C'est un terrain de jeu, c'est toi qui mets tes objectifs. La dernière fois que je jouais à Football Manager, j'ai voulu gagner la Ligue des Champions avec Sunderland parce que j'ai regardé la série Netflix avec Sunderland qui descend d'une ligue et puis la saison d'après ils descendent d'une autre ligue. Alors il y a rien qui allait, tu vois.
T'aimes le challenge, quoi. C'est parti de loin là.
Ouais, c'est ça. Tu te mets un challenge. J'ai passé des nuits avec un pote à faire D8 anglaise jusqu'à gagner avec des champions. Notre but c'était de faire gagner avec des champions à un club de D8. Donc, c'est en fonction de ton objectif, c'est un temps donné et tu sais que tu vas y passer un certain nombre de temps. Puis, tu sais, t'as l'impression de vivre ça comme si c'était une histoire. Les jeux de gestion, tu vis ça comme si chaque jour que tu joues, c'est un nouveau chapitre. C'est aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, tu vois, sur SimCity. Ça serait, voilà, j'ai créé un nouveau quartier résidentiel qui marche super bien et donc ça m'a permis de créer un quartier industriel. Puis t'as ouvert un nouveau quartier de ta ville, puis ça sera genre ton chapitre. Et tu vis ça un peu vraiment comme une histoire, je trouve, les jeux de management. Et c'est assez addictif, hein. Tu rentres chez toi, enfin, tu penses toute la journée à ce que tu vas faire.
Exactement. Mais par contre, j'ai remarqué aussi que il y a des moments, en fait, ça prend trop de place et du coup, j'arrête complètement. Et après, quand j'arrête, je recommence une page blanche. Je peux pas revenir à. J'ai pas forcément de plaisir à revenir à une map que j'avais commencé il y a 6 mois parce que du coup je me rappelle plus exactement le centre il était là et puis j'avais fait ça parce que si machin et en fait là je fais très attention à pas y rejouer. C'est pour ça que je joue plus à la Switch maintenant pendant ce nouveau confinement que pendant le premier, parce que vraiment j'y ai passé des heures, tu commences en plus comme t'as pas de fin, t'as pas de, je sais pas, de chapitre ou de moment où tu peux dire, bon, bah, vas-y, je fais ce dernier boss et je m'arrête. Tu commences et puis tout d'un coup, paf, il est 3h du mat. Et...
C'est marrant ça, parce que ça décrit beaucoup l'attitude que tu peux avoir pour les jeux multijoueurs. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une fonction multijoueur sur fonction réseau ou fonction en ligne sur les Sims ou City Skyline ou des choses comme ça?
Non, il n'y a pas de... Enfin, je crois pas, en tout cas, j'utilise pas. Mais... Mais par contre, j'ai commencé avec City Skyline à regarder des vidéos de mecs qui jouent. Enfin, je suis pas non plus sur Twitch. Hein. Restons calmes.
C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape.
Je suivais 2-3 mecs sur YouTube qui postent des vidéos de eux qui jouent et d'évolution de leur map. C'est là, du coup, c'est souvent aussi intéressant parce que c'est comme des séries en fait. Ils te font des épisodes, une trentaine, une quarantaine, et tu les vois. Ils font des accélérations des fois quand ils font des moments un peu chiants où tu dois construire une autoroute souterraine et c'est pas hyper intéressant de voir comment tu creuses la montagne, etc. Mais c'est quand même assez intéressant pour s'inspirer, pour avoir de nouvelles idées. Et surtout qu'en plus, dans City Skyline, là, t'as plein de modes et de trucs que tu peux rajouter, en fait. T'as un catalogue sur Steam.
Le workshop.
Ouais, le workshop, voilà, c'est ça. où les gens du coup postent, ou alors ils mettent en place aussi des modes pour je sais pas, que t'es plus de déchets, t'es plus de pollution de l'eau, enfin des trucs qui peuvent aussi aider soit à tricher un peu, ou alors renforcer la difficulté, ou alors permettre d'avoir des trucs plus, des choses plus esthétiques, des bâtiments plus jolis que ce qui est fourni dans la version de base du jeu. Et ça aussi c'est sans limite, enfin tu peux du coup t'en inspirer à chaque fois, et c'est aussi pour ça que je regarde un peu ces vidéos là parce que ça donne aussi voilà des idées, et ça me permettait de jouer un peu différemment de la manière dont je jouais avant, qui était beaucoup plus vanilla quoi, où je jouais juste au jeu de base et sans plus trop me prendre la tête que ça.
T'as un concept qui revient souvent dans les jeux vidéo, c'est le concept de flow. Et je trouve que c'est le fait en fait que t'es tellement à fond dans un jeu que tu vois pas du tout le temps passer. Je trouve que dans les jeux de management, c'est incroyable à quel point genre t'es pris dedans et tu vois absolument pas le temps passer. Vraiment, les jeux de management pour moi, c'est ceux où finalement tu finis par t'arrêter de jouer parce que t'entends les oiseaux chanter et la lumière du soleil sur ta tête. Vraiment. Et le lendemain, tu te réveilles et ta première pensée, c'est quel joueur je vais acheter au prochain mercato. Tu vois. Alors vraiment, c'est incroyable à quel point les jeux de management, ça me prend comme ça. Et comme tu as dit, ouais, quand tu t'arrêtes de jouer un ou deux mois ou même une semaine parfois, tous tes joueurs, tu as limite oublié certains noms.
Ah, c'est clair.
Pour mon jeu, pour toi, ça doit être les cartes, tu as un peu oublié ce que tu avais fait. Et donc, tu reviens dedans, tu n'es plus trop dedans en fait. Tu dis, non, là, je préfère recommencer, limite. Sachant que dans ces jeux-là, les premières heures de jeu, c'est souvent les plus intéressantes.
Oui. Donc, la feuille blanche, tu peux tout.
Ouais.
Tout est possible. Ouais.
Super. Donc, on peut enchaîner et passer au troisième et dernier jeu qui t'a marqué.
Alors, le troisième jeu que j'ai choisi, c'était Tetris Deluxe, Tetris DX qu'on avait sur Game Boy Color. Et en fait, j'ai pas fait mes choix de jeu comme ça, mais en revoyant ma liste maintenant après coup, en parlant avec vous, je réalise qu'il y a un jeu qui est vraiment console de salon, un jeu qui est plutôt PC, et là c'est console portable. Et
c'est vrai, c'est marrant.
Et en fait, Tetris, on va pas représenter Tetris, tout le monde connaît, c'est un méga classique et il n'y a pas besoin de faire un dessin sur ce jeu-là, mais je pense que j'ai choisi parce que c'était un jeu qui m'a un peu, je pense, initié à ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le casual gaming, là, tu sais, où en fait, on y jouait, c'était sur Game Boy, donc Game Boy Color, et du coup, c'était le jeu parfait pour jouer dans la voiture quand les parents étaient devant. Tu jouais un petit peu, ou alors, je sais pas, en attendant le train. Enfin, plein de petites situations comme ça où, par rapport à un jeu qui est plutôt de style d'aventure où t'as un boss, ça peut être un peu trop long. Là, tu peux faire plein de petites parties comme ça qui durent pas très longtemps et qui occupent le temps. Et voilà.
Est-ce que tu as rejoué récemment?
J'ai récupéré la Game Boy Color qu'on avait à la maison. Là, je l'ai ramenée du coup chez moi maintenant. Et elle est dans les toilettes. Donc, je joue pas hyper souvent, mais de temps en temps, c'est marrant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué maintenant parce que l'écran de la Game Boy Color est pas rétroéclairé. Et en fait, tu te rends compte de la mauvaise qualité de cet écran-là, quoi. C'est quand on est habitué maintenant au smartphone, écran Retina, HD, 4K, machin. Quand tu repasses sur un écran de Game Boy Color pour jouer à un jeu comme Tetris où il n'y a pas de rétroéclairage et où tu vois tous les pixels, mais en mode méga zoom, c'est un petit peu difficile. Mais mais en même temps, j'avais essayé de re-télécharger les Tetris après sur mes portables pas sur mon dernier là, mais de temps en temps, parce que t'as un Tetris sur l'App Store, mais c'est pas la même chose, je trouvais. Ce Tetris là de Game Boy Color, il y avait un côté à la fois hyper simple et t'avais pas toutes ces options. Maintenant, t'as des milliards d'options de trucs, genre les lignes, elles peuvent s'exploser. Enfin, alors que là, c'était juste le Tetris un peu simple, mais un petit peu évolué aussi quand même, parce que c'était pas le premier Tetris qui sortait sur Game Boy, donc il y avait quand même plusieurs modes, etc. Mais il est quand même beaucoup plus simple que ce que t'as aujourd'hui, et pour autant efficace, quoi.
C'est intéressant. Comment t'en es arrivé à faire ces trois choix-là, en fait? Sur quoi tu t'es basé pour faire ces choix? Parce que c'est des jeux qui sont quand même, comme t'as dit, c'est trois consoles différentes, mais c'est même trois univers différents aussi, tu vois.
Donc Chris m'a posé la question de réfléchir un peu au jeu qui m'avait marqué, et pas au jeu que j'avais aimé, mais au jeu qui m'avait marqué. Et Mario 64 et SimCity, c'était un peu évident parce que c'était les deux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont numéro 1 et numéro 2, c'était les deux les plus qui me sont venus directement. Et Tetris, je sais pas, c'est venu un peu plus tard, et c'est en y repensant quand même au fait que, bah, comme je vous l'ai expliqué, c'est malgré tout, c'est un jeu, je pense, qui je suis pas un gros gamer à jouer à des RPG ou à des jeux de sport, ou je sais pas. Enfin, j'ai plutôt comme je vous ai parlé, ce goût pour les jeux de gestion, et également les jeux de plateforme type Mario. Et en fait, sinon, j'avais aussi beaucoup de jeux sur mes téléphones généralement. Enfin, des jeux qui sont un peu comme Tetris là, comme j'expliquais, qui sont des jeux où tu joues. Un petit peu comme ça pour tuer le temps quand t'es dans une salle d'attente, quand t'es dans les transports, quand et en repensant à ça, du coup je me suis dit, bah tiens, en fait je pense que tout a commencé avec Tetris à une époque, parce que c'était même encore avant les jeux que t'avais sur les portables, avant les Snake et les trucs que t'avais,
Candy Crush.
Ouais, les Candy Crush, tout ça. Snake là, sur Nokia, c'est arrivé encore après. La Game Boy Color, c'était quelques années avant. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui a peut-être un peu planté cette petite graine là.
Tetris, en fait, plus en comme un fil conducteur en fait entre tout, ouais. Ça, ou même qui a amené tout ça.
Surtout qu'en plus, il y avait, enfin, Tetris, c'est un méga classique aussi. Il y avait plein de versions. Je sais pas si Chris, tu te rappelles, on avait, pas nous, mais des cousins à nous avaient une espèce de fausse console qui est même pas une Game Boy, mais un truc gris là, où tu peux jouer à Tetris en noir et blanc, avec juste, t'as une croix et peut-être un bouton et ça ressemble à une méga télécommande. Et en fait, bah oui, c'est un classique qui est un peu indémodable, parce que malgré tout, tu me mains Tetris dans la main aujourd'hui, j'aurais quand même plaisir à y jouer, quoi. Pas des heures et des heures, mais.
Il y avait un Tetris Battle Royale là qui était sorti. Je sais pas si vous aviez vu ça, c'était très drôle. En fait, t'avais 100 personnes qui jouaient en même temps. Puis dès que tu faisais des lignes, ça rajoutait des lignes à d'autres personnes. Donc en fait, le but c'était de se débarrasser de tout. Et donc, au bout d'un moment, des gens étaient éliminés jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un contre.
Ah, c'est génial.
Ouais, c'est. Je crois que c'est Tetris Royale ou quelque chose comme ça.
Je vais regarder, ouais.
Les vidéos étaient super drôles. C'était limite le jeu le plus joué à un moment. Là. Je sais plus si c'était 2020 ou 2019. Ça devait être genre janvier ou octobre, novembre 2019. Et c'était très drôle à regarder. Genre. Puis voir que, ouais, comme tu as dit, Tetris se retrouvait genre, hein, dans les jeux les plus joués 30 ans après la sortie de Tetris. Ouais. Quoi.
On a déjà un peu abordé ce thème-là, mais si on doit conclure sur ces trois jeux-là, est-ce que tu peux détailler peut-être ce qu'ils t'ont apporté chacun? On a parlé pas mal de SimCity et comment les jeux de gestion, ça a failli faire naître une carrière chez toi.
Ouais.
Mario, qu'est-ce qu'il pourrait t'avoir apporté, et Tetris?
Mario, je pense que ça, c'est un jeu qui m'a apporté un intérêt pour un certain type de jeu vidéo. C'est que, comme je te dis là, j'étais hyper content de pouvoir racheter ce Mario 3D All Star quand il est sorti, ce pack, parce que à la fois c'est de la nostalgie, mais c'est aussi En fait, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Quand Nintendo sort une nouvelle console, je suis hyper content de me précipiter sur le Mario quand il sort, parce que c'est, je trouve toujours hyper bien fait. Il y a des bonnes idées. Ils arrivent à se renouveler alors que finalement c'est les mêmes personnages depuis 35 ans. Et donc c'est, je pense que ouais, l'intérêt que j'ai pour les jeux vidéo, c'est surtout pour les jeux de plateforme sur console, et ça c'est clairement à cause de Mario. C'est parce que même sur la Switch là, donc j'ai également Zelda et d'autres jeux, mais c'est Mario auquel je préfère jouer à chaque fois. C'est le jeu qui est pour moi le plus intéressant et qui me plaît le plus. Et Tetris, bah ouais, comme je vous disais, c'est ce côté un peu, pour moi, c'est ce premier jeu auquel tu peux jouer un peu partout facilement. Enfin, je me souviens d'y avoir joué, comme je disais, en voiture, dans les toilettes, enfin dans plein de situations, alors que c'est pas forcément, enfin avec la Game Boy tu peux faire ça avec plein de jeux, avec Pokémon aussi potentiellement, mais Tetris tu peux juste faire, voilà, une petite partie, ça dure 3 minutes et paf, et c'est réglé, quoi.
Et pour conclure, peut-être une dernière question: quel serait, ou quel est plutôt, ton rapport aux jeux vidéo actuels? Là on sait qu'on est en confinement, etc., mais comment tu joues? Est-ce que tu joues beaucoup? Est-ce que tu joues peu? Quel est ton rapport aux jeux vidéo?
Là, actuellement, pendant le confinement, je joue clairement plus que d'habitude. Ouais. Et c'est clairement à cause du fait que les activités qu'on peut faire à l'extérieur soient fermées et que on passe beaucoup plus de temps chez soi. Après, j'ai pendant assez longtemps assez peu joué. En fait, j'avais donc la Switch que mon charmant petit frère m'a offerte il y a quelques années. Mais
voilà.
Mais pendant longtemps, j'ai pas beaucoup joué. En fait, elle était juste dans, pas dans un tiroir, j'exagère, mais dans un coin de ma chambre, on va dire, et j'avais pas non plus de télé, donc j'ai joué surtout en mode nomade.
Ok.
Et j'ai investi l'année dernière, il y a un an pile poil, parce que c'était au moment du Black Friday aussi, donc il y a un an pile poil au moment où on enregistre ce podcast, là, et j'ai acheté un vidéoprojecteur. Et non seulement c'était la meilleure idée du monde, vu que 6 mois plus tard il y avait le confinement et que du coup j'ai regardé plein de séries, de films, etc. dessus, mais ça m'a aussi permis de me remettre à jouer, puisque j'ai branché ma Switch dessus, et du coup c'est hyper agréable de jouer sur très grand écran et de pouvoir avoir une qualité comme ça de jeu différente du petit écran de la Switch, quoi. Après, pour ce qui est du gaming sur PC, j'ai jamais trop eu de gros PC de gamer hyper puissant, etc. J'ai un MacBook avec lequel je joue et qui est très bien pour Cities Skylines et mes jeux de gestion là, et ça fait le job, quoi. C'est pas une machine de guerre niveau carte graphique, etc. Mais ça fait bien le job, donc. Donc voilà, je me suis remis aux jeux vidéo cette année, notamment avec le coronavirus, mais en fait c'est quelque chose de bien, parce que ça me fait plaisir. Du coup, j'ai même racheté plein d'autres jeux là. J'ai mon charmant petit frère qui m'a aussi offert Untitled Goose Game, le jeu avec Loi sur Switch. Mais sinon, même je fais tous les matins du sport avec Ring Fit Adventure, et voilà, enfin je joue quand même assez régulièrement, quoi.
Ça t'avait manqué en soi, non?
Bah je pense pas que ça m'avait, avec le recul, je suis content de pas l'avoir fait trop, parce que en fait tu peux passer vraiment beaucoup de temps, pas seulement sur SimCity et sur les jeux de gestion, mais de manière générale je remarque que ça prend quand même du temps de s'investir dans un jeu, de le faire jusqu'au bout, etc. Là, je suis content d'y jouer un peu plus comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a quand même manqué. Enfin, il y a un côté nostalgie que je retrouve en plus là, comme je suis sur la série des Mario, qui est assez agréable de retrouver. Ouais.
Super. Un mot de la fin, peut-être, Kenny, du coup.
Je te rendrai jamais la Switch.
Parfait.
C'est parce qu'il t'a offert un Tactical Goose Game, mais en fait, il l'avait juste téléchargé avec sa Switch, mais il voulait juste récupérer la Switch pour pouvoir y jouer.
Tu la reverras jamais. Ce sera ça, le mot de la fin.
Super, bah, je crois que sur ces belles paroles, on peut effectivement conclure le podcast. Merci beaucoup.
Yep. Merci. Ben, merci à vous, c'était cool.
C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.